Et encore une fois, le vieux fou qui crie aux nuages. Les temps changent. Est-ce qu'ils changent pour le mieux? Aujourd'hui à Revue, la désexualisation du cinéma populaire. Et ça commence maintenant. Tout d'abord, un peu de contexte, parce que le contexte, c'est toujours important. La plupart des abonnés de Revue, je dirais, vont s'en souvenir. À une époque, on rentrait dans un club vidéo et t'avais les jaquettes de films qui attiraient tout de suite ton attention. Les jaquettes, c'était primordial. Parce que si on connaissait la plupart des gros titres, OK, eh bien, on connaissait pas toutes les séries B qui sortaient. Donc, ça prenait des jaquettes pour attirer notre attention. Et s'il y en a qui me disent, OK, que eux, la jaquette ne les a jamais influencés à choisir un film et qu'ils ont toujours fait des choix éclairés, arrêtez de me mentir, on est entre amis. Pensez à Andy Sidaris, pensez au film de la Canon, pensez au film de Roger Corman. Il y avait une esthétique derrière ça, une esthétique un peu racoleuse, souvent racoleuse, très racoleuse. Mais que voulez-vous, hein? Les jaquettes à cette époque-là nous racontaient une histoire. Et les films avaient certains codes. Dans un slasher, par exemple, eh bien, c'était normal qu'il y ait une scène de douche ou une fille qui enlève son T-shirt en allant à la plage ou son haut de bikini en allant se baigner ou qu'il y ait une scène de cul dans ces films-là. C'était plus ou moins standard. Et il y a même eu une époque où les thrillers érotiques faisaient partie du cinéma populaire. C'était un genre en soi et c'était un genre qui marchait énormément. Pensez à Fatal Attraction, Basic Instinct, Sliver et Wild Things. C'était des films avec des bons budgets. C'était des films que les gens allaient voir au cinéma et c'est des films qui ont connu énormément de succès. Le genre du thriller érotique n'était pas forcément que de la série B. Il y avait des films à gros budget avec de bons acteurs qui sortaient et qui avaient du succès. Mais Steve, qu'est-ce qui s'est passé? Excellente question. Merci. Déjà un, le streaming. Le streaming a tué les clubs vidéo, donc a tué une certaine diversité de films. Parce que tu le veuilles ou non, ben il y avait plus de diversité, je trouve, à l'époque des clubs vidéo. Maintenant, il y a plus de films, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de diversité. Je vais revenir au cas du streaming dans pas long. Attention. Ensuite, le blockbuster fait pour tout le monde. Maintenant, les blockbusters, il faut que ça soit fait pour tout le monde. Et ça, c'est un concept qui fait chier la plupart des abonnés de ma chaîne, je le sais, et qui me fait profondément chier moi aussi. Mais apparemment, maintenant, quand ils font un film, il faut que ça soit fait pour tout le monde. Parce que à vouloir faire plaisir à tout le monde, ben tu t'assures de faire plaisir à personne. Faut que tout le monde puisse aller le voir parce que personne n'a envie de voir ça. Ça s'appelle la logique hollywoodienne. Basic Instinct, c'était pas familial. Et si vous l'avez pas vu, je vous le dis tout de suite, vous attendez que les enfants dorment avant d'aller le regarder. Et cette maladie-là du tout pour tout le monde est bien sûr aggravée par la mondialisation du cinéma. Maintenant, on ne veut plus juste faire ça pour tout le monde, on veut faire ça pour partout. Et si tu veux faire un film pour tout le monde qui va partout, ben tes valeurs occidentales, il va falloir que tu les modifies un peu. Si tu veux vendre ton film en Chine, pas de cul. Non. Les Chinois, ils veulent pas de cul dans leur film. Tu veux vendre ton film dans les pays musulmans, eh bien, il n'y aura pas de cul là-bas non plus. Hein. Tu veux vendre ton film en Russie? Ah ben là, il faudrait que tu rajoutes quelques scènes de cul, mais pas d'homo. Parce que l'homosexualité, ça n'existe pas. C'est fou quand même comment certaines personnes à Hollywood choisissent les valeurs qu'ils défendent. Un autre changement fondamental dans les valeurs de notre société, et je peux pas parler de ce que je vous parle sans parler de ça, c'est l'accès au porno. Laissez-moi vous dire qu'on est loin de la petite porte dans le fond du club vidéo, hein? Du porno, maintenant, t'en as où tu veux, comme tu veux, comment tu le veux, parce que ce n'est plus considéré comme de l'exploitation. Non. Parce qu'à une époque, une fille en bikini sur une pochette de film dans un club vidéo, ça, c'était de l'exploitation, OK? Une scène de douche dans un film d'horreur, c'était de l'exploitation. Maintenant, une fille qui s'étouffe et qui se fait défoncer de tout bord, tout côté, ça, c'est de la prise de pouvoir. Elle prend les commandes de sa destinée via son corps. Je sais. Quand je le dis à voix haute comme ça, ça tape, hein? Donc, apparemment, pour plusieurs personnes, l'accès au porno aurait rendu le nu et le sexe dans les films ennuyeux. Faut vraiment avoir le compas qui pointe pas au nord pour dire ça quand même. Et tant aussi longtemps que les gens mettent l'accent sur l'accessibilité au porno, eh bien, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que selon moi, la vraie raison que tout a changé, c'est pas qu'on a accès à du porno. Non. Le coup de grâce, OK, qui a tué la nudité et les scènes de cul dans le cinéma populaire et sur les plateformes, etc., surtout sur les plateformes, c'est le concept de ad-friendly. Le concept de ad-friendly est extrêmement simple. C'est est-ce que tu es capable de vendre des pubs sur ce contenu-là? Est-ce que les publicitaires aiment ce contenu pour vendre des pubs dessus? Par exemple, la vidéo que vous regardez présentement va être jugée par YouTube à savoir s'ils mettent des pubs ou pas. C'est totalement hors de mon contrôle. Je reçois un pourcentage des pubs s'ils décident d'en mettre, mais c'est pas moi qui décide s'il peut en avoir dessus. D'après vous, je parle de désexualisation du cinéma. Quelles sont les chances que ma vidéo ne soit pas monétisée? Mais il n'y a pas que YouTube que ce raisonnement-là, parce que maintenant, les plateformes de streaming offrent toutes un abonnement avec publicité. Donc, le réel client des plateformes de streaming, maintenant, ce n'est plus le consommateur. C'est celui qui vend de la pub. Attention, c'est important ce que je viens de vous dire. Parce que si on prend pour acquis que les plateformes de streaming peuvent vendre de la publicité, eh bien, le client, ça devient les publicitaires. Ce n'est plus vous. Non. Vous, vous êtes juste là pour fournir des données afin qu'ils vendent plus de pubs. Et les publicitaires, ils n'ont pas forcément envie de voir leur logo entre deux scènes de douche ou entre les jambes de Sharon Stone. Et si vous vous demandez, j'ai cherché, en 2025, les revenus publicitaires sur les plateformes de streaming ont accumulé 2 milliards de dollars américains de revenus. Ça, c'est milliard avec un M majuscule, hein. Mais d'un autre côté, on ne peut pas les blâmer, les plateformes de streaming, parce qu'ils nous ont convaincus qu'on avait besoin de leurs services. Ben oui, ils nous ont dit « c'est bien mieux que la télé, viens sur ma plateforme ». Ensuite, ils nous ont convaincus que c'était OK de mettre des pubs sur leur plateforme. Puis il y a des gens qui ont choisi cet abonnement-là. Et ils ont donc convaincu des gens que c'était OK de payer pour regarder des pubs. Ça, là, c'est le même concept que la télé normale. Un autre concept important, OK, et celui-là, il revient souvent, je le sais, dans mes analyses, mais c'est l'univers des super-héros, les 20 dernières années de cinéma qui nous ont donné un univers de super-héros. Dans les années 80-90, on regardait un actionneur, on le voyait torse nu, le biceps. Pensez Arnold, pensez Stallone, par exemple, pensez Dolph Lundgren. OK? T'as des hommes, des vrais, qui suaient. Maintenant, on a le droit à des armures en numérique. C'est plus la même chose, là. Non. C'est pas très sexy, une armure en numérique, hein? En plus, ce genre de film-là a remplacé la femme fatale par une badass ou une Marissou. Parce que c'est ça. Faut savoir laisser des choses au passé. Et oui, OK? Oui, je l'avoue, il y a peut-être eu un peu d'abus dans les années 80-90. C'était vendeur et il en mettait parfois un peu plus que pas assez. Est-ce que le post-apo italien, par exemple, avait tendance à mettre des nibards dans les films pour qu'on porte moins attention aux décors en carton et aux costumes tout pourris? Oui. Mais maintenant, ça va plus loin que le cul. Oui. Parce que c'est plus juste le cul qu'on n'a plus. On n'a plus vraiment d'amour non plus. J'ai fait des recherches sur Internet, OK, et j'ai trouvé une étude spectaculaire. Le lien de l'étude sera dans la description, OK? Et cette étude-là a interrogé 1500 jeunes de 10 à 24 ans. Attention à certains résultats. 51% ont dit qu'ils voulaient plus de contenu basé sur l'amitié et des relations platoniques. 47% jugent que le sexe n'est jamais nécessaire à une intrigue. Et 40% veulent plus de personnages asexués et aromantiques. Ah ouais. On n'est pas dans la merde, hein? Et ça, c'est un mouvement qui s'appelle le No Man's. Au lieu de Romance, ça s'appelle le No Man's. No Romance. Et sincèrement, quand j'ai regardé l'étude et que je l'ai lu, Ben, je me suis dit que c'était probablement le premier signe de l'apocalypse, quoi. On va s'éteindre comme race. Parce que l'étude se résumait quelque part à ça, OK? Une fille de 16 ans qui regarde un film avec ses amis, s'il y a une scène de sexe dans le film, elle devient inconfortable. Elle et ses amis deviennent inconfortables. J'embarquerai pas sur les détails de ce que je faisais à 16 ans, mais c'est pas normal qu'à 16 ans, tu sois rendu inconfortable par une scène d'amour ou de la nudité. T'es jeune. Plus vraiment un enfant non plus. C'est encore pire pour les garçons qui, eux, pensent sincèrement que les films manquent de relations platoniques. Mon opinion là-dessus, on les assit devant Porky pendant 3 jours. Et on a une autre conversation avec eux. Et oubliez pas une chose, OK, parce que c'est également spécifié dans l'étude, mais cette génération-là, la génération Z, a passé sa vie avec les réseaux sociaux. Ils ont grandi avec ça. Donc, ils ont grandi dans un univers où tout ce qui est sexuel est censuré. On peut pas utiliser ces termes-là sur les réseaux sociaux. Donc, tout ce qui est sexuel est censuré. Sexe devient seg, téton devient nip. Tout est censuré, OK? Il n'y a rien de vrai. Ils doivent tout cacher sur les réseaux sociaux. Si je serais conspirationniste, là, je dirais que cette génération-là, depuis 200 ans, est peut-être la génération qui a grandi dans l'environnement le plus moralisateur qu'il y a jamais eu. Je pourrais argumenter ça, mais je ne le ferai pas dans cette vidéo-là. Donc, en fin de compte, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette génération-là, là, elle a été élevée pour être ad-friendly. C'est fou, hein? Et j'ai trouvé d'autres données à propos de cette génération-là, la génération Z, née entre 1997 et 2012. Et c'est des trucs qui me font peur. 3 hommes sur 10 entre 18 et 25 ans n'ont pas eu de relation sexuelle dans la dernière année. T'es pas marié d'habitude entre 18 et 25 ans, t'as pas 3 gamins, t'as pas un boulot hyper demandant. Y'a aucune raison pour ne pas baiser, là. Et là, je sais que ça n'a pas tout à fait rapport avec le cinéma, mais en tombant là-dessus, ça me frappe. C'est que non seulement ils baissent pas, mais ils apprennent pas à bâtir une intimité avec quelqu'un. Et après ça, on se demande pourquoi les scènes de sexe les rendent inconfortables au cinéma. Un autre truc qui vous frappera si vous tombez sur cette étude-là ou si vous voyez d'autres vidéos du genre de celles que je fais, c'est que cette génération-là, elle veut voir des films où les gens deviennent amis. Elle veut plus forcément les voir tomber en amour. Parce que comme eux, ils n'ont pas d'amis, ben, ils veulent voir des gens devenir amis. Hein? Ça aussi, ça frappe. En conclusion, il y a un énorme paradoxe également avec ce que je viens de vous raconter et ce qui se passe aussi parallèlement à tout ça, c'est la série Euphoria. La série Euphoria est clairement la série préférée de la génération Z. Si vous voulez mon opinion personnelle sur la série, moi je trouve que c'est du soft porno amateur, mais s'ils aiment ça, tant mieux pour eux. Et l'autre énorme paradoxe, c'est la musique. Parce que regardez n'importe quel vidéoclip, les filles ressemblent de plus en plus à des danseuses des années 90. Et quand je dis danseuse, je veux dire stripteaseuse. Oui, vous remarquerez, ils ont toutes l'air de stripteaseuses maintenant. Ben, des stripteaseuses des années 90. C'est peut-être une question de format, parce qu'une chanson dure 3 minutes, ça n'a peut-être pas le temps de les rendre mal à l'aise. Je sais pas. Mais les vidéoclips d'aujourd'hui, ça aussi, ça commence à ressembler à du soft porno. Et oubliez pas un truc, hein, parce que c'est cette génération-là qui sont les futurs scénaristes. Les futurs réalisateurs, c'est eux qui vont créer le contenu dans quelques années. Et ça, c'est le background qu'ils amènent avec eux quand ils vont créer du contenu, créer des films, créer des séries. Et je suis sûr que dans les commentaires, il y a plein de gens qui vont me dire « Ouais, mais t'as pas vu Challenger » ou « Tu regardes pas assez Euphoria ». Et je vais dire « Oui, vous avez raison, c'est des exceptions ». Le truc avec les exceptions, c'est que la plupart du temps, ils prouvent la règle. Ensuite, toute ma vidéo est basée sur un comportement fondamentalement américain. En Europe, les gens ont clairement une vision différente de la sexualité et de la nudité. Sauf que la majeure partie de ce qu'on consomme comme divertissement provient des États-Unis. Donc, on est comme coincé avec leurs valeurs. Voyez ce que je veux dire? merci d'avoir passé un moment avec moi. On se revoit ce soir sur Twitch à 20h30 ou la prochaine fois.